Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne-Marie Gaumann et de Joël Miachon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici tous les deux pour nous présenter pour cette 30e année, c'est ça ? 29e année, donc les nouvelles du comte de Bourdeaux.
Oui, en fait, on ne les présente pas depuis 29 ans, nous. Hein. Mais bon, c'est la 29e édition du festival.
Vous êtes dans l'organisation depuis combien de temps environ ?
Depuis 5 ans maintenant. Et je suis membre du CA. Et j'ai un vif plaisir à participer à cette manifestation de qualité. Et au niveau... local et investissement local qui est très signifiante.
Et vous êtes originaire de Bourdeaux ou vous êtes arrivé sur le territoire depuis quelques années auparavant ?
Je suis native de Cray, mais je n'ai jamais vécu et je reviens maintenant que je suis dispensée d'obligations professionnelles.
Joël, vous êtes venu sur le territoire ou vous êtes originaire ?
Moi, je suis originaire de Cray également. Et je suis revenu sur dans la vallée pour les mêmes raisons. J'ai bien aimé ta formule, Anne-Marie, dégager de mes obligations. Et j'ai pris contact avec les nouvelles du comte en 2006, et même avant parce que j'assistais assez souvent à des spectacles. Et j'ai été embarqué, je me suis bien laissé embarquer dans l'équipe à partir de 2007. Voilà, ça fait 10 ans.
Et c'est par passion du comte que vous êtes approché de l'organisation ?
Absolument.
Oui, c'est... j'ai découvert à cette période-là, grâce à mon épouse, entre autres, qui était conteuse amateur, les joies du comte et de ses récits qui sont... pas toujours merveilleux comme on dit, mais en fait qui disent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et en fait, après il y a ce qu'a dit Anne-Marie tout à l'heure, l'ambiance de l'équipe des Nouvelles du Comte, et puis ce festival qui a lieu, qui à une période était d'ailleurs très nomade, qui s'est un peu fixé à partir de 2007 justement, dans un lieu, la ferme des Magnats, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure.
Anne-Marie, donc vous étiez dégagée des obligations professionnelles, donc vous avez eu une envie de remplacer cette obligation ?
Non, de la poursuivre, parce que je travaillais avec les comptes en tant que psychothérapeute, psychanalyste, et je m'étais déjà intéressée à cette question, et je trouve que, voilà, il y a une phrase de Gougo que j'aimerais citer, d'Henri Gougo, dans le livre des amours, il écrit « Les comptes ne parlent pas du monde de l'enfance ». Mais de l'enfance du monde. En eux sont l'innocence, la vigueur, le tutoiement de Dieu et l'absence de doute des premiers printemps de la vie. Ils expriment l'irrésistible élan de la vie, cette force qui va et traverse nos corps, aveugle au convenable et à l'inconvenant. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai souhaité continuer à travailler avec le comte.
Et c'est ce que vous retrouvez donc dans les nouvelles du comte de Bourdeaux.
D'une autre façon, puisqu'il s'agit d'organisation de spectacles maintenant, alors que c'était un travail thérapeutique que j'exerçais avant.
Le choix des comtes qui seront proposés donc pour cette saison émane de qui ?
Nous avons un directeur artistique, Johannes Vanes, qui lui établit le programme et choisit les conteurs qui interviendront au niveau du festival.
Johannes Melsen. Oui. Parce que nous l'appelons tous Vanes, d'ailleurs il est connu dans le milieu aussi avec ce nom, ce prénom plus exactement. Voilà, c'est effectivement lui qui établit le programme. Parfois, il nous arrive de lui donner quelques conseils ou des indications sur un spectacle qu'on a vu. Et il en tient compte. D'ailleurs, un certain nombre de fois, le spectacle se retrouve dans la programmation. Voilà, parce qu'il y a une équipe quand même.
Alors, le choix fait du programme, les artistes qui sont présents donc, sont dans ce festival sont emblématiques de ce qui se produit en France au niveau des contes ou c'est aussi une activité qui en cesse, qui semble s'expandre.
C'est-à-dire que depuis que le conte est arrivé sur la scène, on va dire, hein, puisque... le conte était originellement transmis dans les familles, dans les groupes de travail, dans les... en fait, depuis qu'il est arrivé sur la scène, ces artistes-là, il y en a un certain nombre en France, on va dire une centaine, qui vivent de leur art, et beaucoup d'autres qui sont amateurs ou qui cherchent à devenir professionnels. Et qui parfois d'ailleurs sont remarquables, et parce que justement le récit est devenu quelque chose, même pour certaines personnes, d'un peu indispensable. Quoi. On raconte, voilà, c'est ce que disait un peu Anne-Marie tout à l'heure en citant Henri Gougaud, qui a été un des pionniers de l'arrivée du conte à la radio et ensuite en spectacle. Et en fait, le choix, il est lié au thème, puisque nous sommes un des rares festivals en France à être un festival thématique. L'an passé, c'était la musique en plus, voir comment la musique résonne avec le récit. Et cette année, c'est Voyage sans bagage. Et le choix des artistes fait en fonction du thème après. Voilà. Et ce sont des gens qui sont tous très connus, non seulement dans les milieux du conte, mais dans les milieux du spectacle.
On va venir juste sur le titre, Voyage sans bagage. Quel est le message que vous voulez passer ?
C'est-à-dire que notre festival n'est jamais à l'écart des questions, des grandes questions de société. Et cette année, ces dernières années, s'il y a un problème important qui est autour de nous, ce sont bien les migrations. Et en préparant un peu cette interview, je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans, en 2007, le titre du festival était « Chuchotement derrière le mur de Schengen ». Alors le mur de Schengen... on sait ce que c'est, hein. Cette espèce de grande frontière autour de l'Europe où on essaye de filtrer, de canaliser et la plupart du temps d'empêcher les migrants d'entrer en Europe. À l'époque, c'était déjà difficile. Maintenant, on sait que c'est bien pire. Et en fait, les récits, la narration, le conte n'est pas coupé de cette réalité et nous avons là des gens qui ont fait un travail de l'autre côté des frontières très souvent. Alors bien sûr c'est dans ce voyage ça peut être autour de récits d'immigration, d'aventures, d'itinérance et puis ça peut être aussi comme on le dit dans l'introduction d'une vie à l'autre et puis un voyage un peu en soi-même également.
Cette programmation qui va du 28 juillet au 12 août, vous allez pouvoir proposer au public combien de spectacles, Anne-Marie ?
Il y a 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 8 spectacles.
Et de l'autre côté, t'as compté ?
Non, je n'ai pas compté ceux derrière, oui. Ça en fait plus.
Oui.
Ça fait 12.
2, 3, 4, oui.
12 spectacles avec des conteurs professionnels aguerris. Et puis, nous avons aussi des scènes ouvertes réservées l'une aux amateurs. Et puis réservés aux professionnels débutants ou qui ont envie de se faire connaître, qu'on n'a pas vraiment connu encore. Et puis aussi, nous avons des stages et des ateliers Autour avec deux conteurs qui ont l'habitude de partager ce qu'ils ont aimé et découvert dans le conte. Donc Guylaine Casa et Bernadette Bidaud animeront deux stages. Voilà, il y a un panel. Et puis le marché sera animé aussi par Mathilde Arnaud.
Vous dites il y aura un marché donc à chaque journée?
Non.
Non, c'est au marché de Bordeaux.
Et au marché de Dieu le Fit.
Et au marché de Dieu le Fit. Mathilde Arnaud viendra avec des histoires plein les poches.
Vous parlez de Dieu le Fit, ça veut dire qu'il y a des spectacles en dehors de Bordeaux?
Oui.
On va rentrer plus en détail quand même par rapport à chaque spectacle. Une journée au Festival des Nouvelles du Conte à Bordeaux, ça se passe comment et à partir de quelle heure?
Oh, ça se passe déjà depuis le mois de juin, où nous commençons par faucher, couper les mauvaises herbes avec entrain et nécessité. Et puis ça se poursuit au moment du festival, le matin où nous avons les courses à faire pour approvisionner la restauration. Et puis l'après-midi, dans une joyeuse ambiance, d'épluchage, de préparation de la scène et puis des lieux que fréquente le public avec des tapis, des coussins, toute une installation qui fait qu'il y a une grande atmosphère de convivialité dans cette ferme typiquement dromoise. Et c'est un très beau cadre entouré de montagnes et je le recommande vivement à tout un chacun qui veut connaître l'âme de la Drôme.
Que c'est bien dit.
Oui, et juste pour situer, Bordeaux, c'est combien d'habitants?
Alors là...
600.
600.
Voilà, 600
et
habitants.
Donc, des habitants de Bordeaux participent comme bénévoles aussi à ce festival? Vous êtes
quelques-uns.
Ah oui,
vous avez une équipe derrière vous.
On a une équipe.
Vous êtes bien.
Et l'office de tourisme est particulièrement actif et soutenant. Voilà, et ainsi qu'à Dieu le Fit.
Et nous avons surtout des sponsors, des gens qui donnent un petit coup de main financier, en plus de nos partenaires institutionnels, régions, départements. Communauté de communes et la commune de Bordeaux et 6 communes autour de Bordeaux qui donnent un petit coup de main, plus donc des petites entreprises et commerces bordelois. Et du point de vue de la participation des spectateurs, on est comme un peu tous les festivals, hein, c'est-à-dire que bien sûr il y a des bordelois qui viennent, mais ils ne se bousculent pas. Mais ce n'est pas dramatique. Il y a des gens qui viennent d'un peu toute la région. De la Drôme principalement, mais de l'Ardèche. Voilà, pour assister au spectacle, s'entend. Alors, bien sûr, nous avons d'autres lieux de spectacle. Entre autres, Poète Sélard et le château de Poète Sélard. Nous avons un petit lieu depuis très longtemps du côté de Bouvières, la ferme de Perrache. La bergerie de Perrache, pardon. Et donc, ce sont des lieux où on se déplace. Il y a aussi deux randonnées. Donc, une randonnée qui sera autour du château de Poète Sélard.
Ça sera quel jour?
Alors ça, c'est le mercredi de août.
Avec Virginie Kobanieki, qui nous parlera de la rivière à l'envers à partir d'un texte de Jean-Claude Mourleva. Mais c'est elle qui en fait une interprétation tout à fait personnelle.
Et l'autre randonnée, c'est une grande randonnée qui a lieu avec Éric Pintus, qui est un grand habitué du festival, non seulement en tant que conteur, je dirais même pas trop en tant que conteur, mais surtout qui est amoureux de la région, qui connaît très bien Johannes Melsen depuis fort longtemps. Et qui viendra faire la grande randonnée du 10 août, avec un départ à 9h de la ferme des Magnats. Et nous rejoindrons le château de Poète Sélard, où le soir il aura un spectacle tout public, et qui s'appelle « Loin de chez moi ».
Voilà. Voilà. En lisant votre programmation, je trouve qu'il y a une parité au niveau des artistes qui viennent s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a autant d'hommes que de femmes. C'est un parti pris ou c'est seulement au niveau de la qualité du spectacle ou qui répond à votre thématique?
Ah, ça répond à la thématique essentiellement. L'an passé, on nous avait reproché qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Mmh. Cette année, oui, on en a à peu près la parité. Oui. Voilà, ça correspond à la thématique. Enfin, bon, Guylaine Casa, qui fait l'ouverture, a fait un gros travail en Afghanistan. Donc, elle va venir présenter sur deux moments différents, avec deux titres différents, des contes de là-bas. Et voilà, donc ça, c'était tout à fait, ça correspondait tout à fait à cet esprit du voyage. Ensuite, Floppy, je t'en laisse en parler deux minutes.
Ah oui, c'est
une ivoirienne.
Une ivoirienne qui raconte l'origine du peuple baoulé, qui a fondé cette légende, a fondé l'existence de ce peuple qui a dû fuir de son propre lieu pour aller se réfugier de l'autre côté du fleuve. Et pour arriver à traverser ce fleuve, la reine des Baoulés, qui deviendra celle de la reine des Baoulés, sera obligée de sacrifier son propre fils. Et c'est cette légende qui forge l'identité de cette ethnie.
Qui vit en Côte d'Ivoire actuelle, dans la Côte d'Ivoire actuelle.
Voilà. Et elle venait du Ghana.
Et c'est très signifiant de notre propos sur la migration et sur le voyage et sans bagage et où on est obligé de faire des sacrifices. Là, il est très lourd, mais voilà, on est en plein dans cette signification. Et c'est une jeune conteuse qui est déjà venu une fois en France et qui revient pour la deuxième fois pour une tournée. Et nous sommes très très contents de l'accueillir.
Je pensais aussi que le thème de l'exil avait peut-être touché plus de femmes conteuses parce que les femmes sont traditionnellement les gardiennes du foyer et être obligées de le quitter, évidemment c'est un déchirement. Et peut-être que les femmes, du coup, conteuses, ont été plus sensibles à cette douleur et à ce drame.
On passe ensuite, pour le jeudi 3 août, à Frédéric Nau.
Alors Frédéric Nau, c'est un conteur que nous accueillons pour la troisième ou quatrième fois, je crois. Et en fait, là, pour son troisième récit, autour des voyages intérieurs et autour de la folie. Il a fait une trilogie sur la question et nous en avons déjà eu deux spectacles remarquables. Et là, nous l'avons invité sur ce road movie du Taureau Bleu, qui est une histoire de jeune en difficulté, on va dire. Voilà. Et ensuite, il sera en duo. C'est quelque chose d'un peu nouveau. Hein. On tente le coup. Il sera en duo avec Ladji Diallo. Alors, Ladji Diallo, qui est en partie malien, malien et français, et qui, lui, vit dans les Pyrénées, dont il nous parlera, entre autres. Et il va faire un duo impromptu avec Frédéric Nau. C'est une chose qu'ils vont faire, je crois, pour la deuxième fois. Et ce sera un petit événement, le samedi 5 août, dans l'après-midi.
Après, nous avons aussi Bernadette Bidaude.
Dont on connaît la verve et la qualité poétique. Et c'est toujours un plaisir de la retrouver pour une soirée de festival, parce qu'elle crée un univers très original et fait décoller ses personnages d'un quotidien écrasant, ennuyeux, pour les mener vers des aventures insoupçonnables. Et on la suit avec plaisir.
Oui, et puis tu avais raison, c'est une grande poète. J'ai relu récemment le texte de ce qu'elle nous avait conté il y a 3 ans, qui s'appelait Fleur de peau, et c'est vraiment un travail sur les mots. Donc là, on va avoir une soirée très poétique. Et d'ailleurs, elle a centré tout son travail de stage, puisqu'elle aussi donc animera un stage autour de la poésie du récit.
Une question de global. Il existe combien de festivals comme le vôtre en France, à votre connaissance ?
Ouh, beaucoup. Beaucoup, même si quelques-uns ont dû fermer l'an dernier, entre autres, par des chutes brutales de subventions. Et enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on doit bien être à 150 ou 180 festivals. Alors, répartis dans l'année, parce que certains ont lieu à de toute autre période. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup l'été. Il y en a quelques grands très connus, comme Vassivière. Mais en général, ils ont lieu dans le cours de l'année. Nous avons des voisins à Nyons, Contes et Rencontres. Eux, c'est en novembre-décembre. Voilà. Et eux, ce sera d'ailleurs cette année leur 30e édition.
L'autre question à venir, c'est par rapport à la création. Donc, vous citiez tout à l'heure de jeunes artistes qui veulent se professionnaliser. Est-ce que vous opérez donc en les invitant à jouer à votre festival une main tendue pour justement les mettre en avant ?
Tout à fait. Ça fait partie de nos missions. On va dire comme on dit maintenant, parce que ça se dit bien ça. Enfin, dans nos statuts, on a donc développé le spectacle autour du récit de la narration. Effectivement, promouvoir le conte, mais aussi les jeunes conteurs. Et faire de la formation et de la découverte auprès du jeune public et faire de la formation de conteurs amateurs. Ce sont les trois grandes orientations des nouvelles du conte depuis leur création.
Et comme nous sommes passionnés, on suit quelquefois l'évolution de jeunes conteurs pendant plusieurs années, jusqu'au moment où on déclare qu'effectivement, on est très heureux de les accueillir au festival.
Voilà. C'est entre autres le cas, quoique ce ne soit peut-être pas qu'une jeune conteuse, mais entre autres de Virginie Comagnacki, qui a beaucoup compté pour nous à différents moments, mais dont c'est, je crois, la première fois qu'elle vient sur la scène. Voilà.
Est-ce que l'idée de résidence pour création, est-ce que ça entre en discussion dans votre CA ?
C'est arrivé sur proposition de Johannes Melsen. À ma connaissance, ces dernières années, c'est arrivé deux fois. Dont une fois il y a deux ans, pour une conteuse québécoise. Et elle est venue trois jours avant. Pour adapter son travail à un public français. Et elle est restée donc à Poetzella, entre autres, pendant 3-4 jours. Et c'est arrivé aussi avant pour Michel Nguyen, que nous avons accueilli dans d'autres circonstances que le festival, mais aussi pour le festival, pour la première de son spectacle « Vie ». Que nous avons vu depuis. Et nous sommes très heureux de l'avoir... mise en avant parce que ce spectacle a eu un retentissement, on va dire mondial.
Hein, oui, puisque c'est une merveille.
La dernière fois qu'on l'a vu dans une opération, des spectacles auxquels nous participons, Voix d'exil, au mois d'octobre, la dernière fois qu'on a vu ce spectacle, c'était sa 550e édition pour elle. Et c'était, voilà. Donc, de temps en temps, on vient un peu à ce travail de résidence, mais qui est quand même limité, faut le reconnaître, parce que ça a d'autres contraintes. Parce que le lieu de scène important que nous utilisons n'est viable que pendant le festival. Or, un artiste qui travaille en résidence a besoin d'un lieu de scène permanent pendant tout son travail de préparation. Et là, on n'est pas équipé pour.
Voilà. On remercie Madame de la Condamine de nous prêter la ferme des Magnats.
La ferme des Magnats, oui, parce que c'est un prêt. C'est un prêt à titre gracieux.
On va continuer ensuite avec Ahmed Bouzine et Haroun Teboul. Alors, ce sont des artistes qui seront accueillis pour le samedi 12 août à la ferme des Magnats, justement, à Bordeaux.
Alors Ahmed Bouzine qui fera la clôture à la suite de Pepito Matteo, il ne faut quand même pas l'oublier.
J'y venais après.
Ah d'accord. Donc Ahmed Bouzine, c'est un conteur d'origine marocaine et qui va nous faire le récit à sa manière de ce très ancien récit de Farid Houdin Attar, persan, qui a, au XIIe siècle, a écrit donc cette allégorie, c'est peut-être pas le mot le plus juste, autour du voyage à la recherche de soi-même. Voilà. Et c'est la huppe, oiseau symbolique, qui va emmener des oiseaux à la recherche du roi, le Simorgue. Et en fait, bon, de toute façon, c'est pas très gênant si on donne la fin. Hein. En fait, le Simorgue, c'est soi-même, quoi. Mais alors, je suis très impatient de voir, parce que c'est un texte que moi j'ai entendu souvent par des gens extrêmement variés. Le texte français, c'est la Conférence des oiseaux de Peter Brook, non mais le traducteur français, ça m'en vient pas, peu importe.
Jean-Claude Carrière.
Jean-Claude Carrière, voilà. Je l'avais sans doute sous les yeux. Et je l'ai entendu plusieurs fois, dont une fois sous forme théâtrale, qui était remarquable à Avignon. Et là, je suis un peu impatient d'avoir ce que ça va donner. Mais c'est toujours un texte, bon, pas toujours facile. Mais voilà, qui est assez passionnant.
Et cette petite huppe, nous la découvrons sur le programme.
Et oui.
Voilà, du festival. Elle est là. Elle est bien représentée, la petite huppe.
Oui. Elle a même une copine en haut. Voilà. Elle n'est pas sur le.
D'accord. Oui, je vois bien.
Voilà.
Je laisserai d'ailleurs l'auditeur la découvrir sur notre page internet. Hein, on la mettra sur le site. Elle est de qui, cette affiche ?
De Boris Transine, qui est donc à Cray, et qui nous fait les affiches, là, maintenant, pour la quatrième année. On a trouvé que c'était un travail assez remarquable.
Et donc, on va continuer ensuite sur Pépito Matteo.
Alors, Pépito Matteo, ça fait partie des gens dont on parle dans les milieux du conte, dont on parle beaucoup, et qui fait toujours un travail, lui aussi, sur qui je suis, où je vais... Dans sa vie à lui, dans la vie, voilà. Et qui parle beaucoup et qui compte bien, merveilleusement bien. Alors après, il est parfois il est un petit peu contesté parmi nos spectateurs, mais ça c'est une bonne chose parce qu'il ne peut pas y en avoir. Tout le monde ne peut pas tout aimer. Et ce qui est bien, justement, c'est qu'on en discute. Et ça, on ne s'en prive pas à la fin des spectacles autour du thé à la menthe que nous servons depuis des années et des années à la fin des spectacles. Voilà, mais Pépito, c'est un grand, un des grands du milieu du conte.
Qui aime jouer avec les mots, énormément.
Voilà.
Presque, à mon avis, je serais un petit peu critique. Parce qu'il y en aurait trop de rebondissements.
Voilà, alors Pépito, nous l'aurons aussi en rencontre. Et ça, cette année, nous avons trois rencontres avec les conteurs qui viennent sur le festival. La première, ce sera le 29 juillet à 11h à Dieulfi, dans l'ancienne librairie Espace Pré-Texte. Et elle viendra, elle nous parler de « Faut-il écrire le conte ?» Le conte qui est la tradition orale. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font pour le travail sur le conte. Enfin, tous les conteurs le font. Mais faut-il le publier ? Ce que certains font abondamment. Ce que Guylaine Cazat n'a encore pas fait, malgré des sollicitations.
Et avec bonheur, en ce qui concerne Henri Gougaud.
Oui, Henri Gougaud a publié des multitudes de livres et il l'a très bien fait. Mais donc, il y a une discussion chez les conteurs là-dessus, chez les éditeurs. Et on discutera de cela avec elle à Dieulfi, donc le 29 juillet à 11h. Ensuite, nous aurons une rencontre littéraire à Bordeaux. Donc, à la médiathèque de Bordeaux, le dimanche 6 août à 17h, avec Bernadette Bidaud, qui, elle, publie certains de ses récits, pas tous, et qui parlera donc de ses publications et puis du conte, je pense d'une façon plus générale. Et on aura le 12 août, avant le spectacle de clôture, mais aussi à la médiathèque de Bordeaux, à 17h, une rencontre avec Pepito Matteo, et qui parlera de son métier de conteur, de son, peut-être d'ailleurs qu'il n'aimerait pas qu'on dise son métier de conteur, on verra bien. Et voilà, alors d'autres l'ont fait, hein, puisqu'on a toutes les années une rencontre littéraire. Mais cette année, on en a trois et c'est bien intéressant qu'on ait des causeries autour du conte avec des conteurs.
Je reviens un peu sur la notion du conte. Vous aviez présenté un texte, une ligne au départ. Hein, c'était « Le conte n'est pas pour l'enfance ».
Non, oui, c'est un récit.
C'est l'enfance plutôt l'enfance de l'humanité. Du monde. Mmh.
Oui.
Voilà, je voulais revenir là-dessus. Mis à part ce point de vue, vous en avez d'autres sur la notion du conte. Qu'est-ce qui vous tient à cœur de voir dans un spectacle en tant que conte ?
En fait, je vais vous citer là une petite présentation d'une conteuse de la région, hein, Brigitte Rago, qu'on a invitée il y a quelque temps, en dehors du festival, où elle dit, conter, c'est allumer les chemins qui mènent à tous ces mondes possible, oublié au plus profond de nous-mêmes, que l'on ait 4 ou 90 ans. Voilà, c'est aussi le conte, c'est la vie, c'est une autre vie. Ce sont des récits qui nous aident à comprendre la vie, la nôtre, celle des autres, et puis notre vie commune. Et tous les artistes qui sont dans la narration, certains le sont sur des contes traditionnels et qui nous disent toujours beaucoup de choses. Et d'autres le sont sur des textes qu'ils reprennent d'auteurs. Alors sont-ils conteurs? Sont-ils raconteurs? C'est une discussion infinie, mais bon, qu'il est intéressant de mener une fois de temps en temps. Mais bon, c'est pas l'important. L'important, ce sont les récits et ce qu'ils nous disent.
Et puis, pour conclure, au niveau des artistes présents, il y aura Mathilde Arnaud qui opérera sur les marchés, c'est ça ?
Oui, c'est une artiste tout à fait locale, puisqu'elle habite à Bordeaux même. Et c'est une jeune artiste que nous avons le plaisir de voir évoluer. Et elle me proposera ses histoires de poche d'une façon tout à fait maligne et conviviale dans le marché.
Oui, et nous l'avons vu dans des circonstances absolument épouvantables, où elle n'y pouvait rien, où elle a toujours réussi à imposer sa voix. Alors auprès d'enfants, parce qu'elle a souvent fait souvent quelque chose directement avec les enfants, mais pas seulement. Voilà. Et Mathilde, nous sommes très contents effectivement de l'intégrer. C'est la deuxième fois qu'on l'intègre sur les marchés. Une fois, elle était venue nous raconter des contes sous la table, là, autour d'un conte indien d'Amérique du Nord sur les fraises. Et elle faisait en même temps goûter des fraises et de la confiture. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Mais pour dire, c'est quelqu'un qui est en recherche de tout ce qu'on peut faire autour du récit. Et c'est très, très intéressant.
À propos de recherche, vous-même, en dehors de la saison de votre festival, vous allez voir aussi d'autres festivals du même acabit et d'aller découvrir d'autres artistes.
Oui, bien sûr. Et puis, nous racontons nous-mêmes, éventuellement, ce qui nous fait progresser dans la compréhension du conte, parce qu'on a le plaisir de voir des adultes s'intéresser au conte des enfants, et pas seulement à cause de leurs enfants, mais parce que la partie d'enfance en eux-mêmes est touchée. Et c'est un grand plaisir de raconter dans les médiathèques, au cours de soirées chez l'habitant.
Oui, 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 c'est... Voilà,
il y a de multiples occasions de raconter des contes, simplement au cours d'un repas d'anniversaire. Brusquement, le conte amène quelque chose qui fait voyager tout le monde dans son imaginaire et dans sa vie. On partage avec les autres.
Voilà. Je voulais savoir, historiquement, est-ce que vous l'avez étudié, l'histoire du conte, dans sa démarche? Et comment s'opérait la diffusion du conte? Ça se passait où?
Ce sont donc grands voyageurs, les contes. Et c'est peut-être pour ça que l'exil, ils savent aussi bien le dire, parce qu'eux-mêmes sont souvent des exilés de leur propre pays, mais ils s'adaptent, et ils se transforment, et on retrouve les mêmes thématiques parce qu'elles sont humaines, tout simplement.
C'est sûr que, en fait, sur l'histoire du conte, en fait, pour nous, ça vient au fur et à mesure, quand on s'intéresse à la chose, et on voit. Mais c'est vrai qu'on a eu, par exemple, dans l'année, une très belle émission sur Arte sur l'origine de Cendrillon et la façon dont Cendrillon est, ça a été travaillé, est venu, semble-t-il, au moins pour une part de Chine et a voyagé beaucoup le long de la route de la soie. Mais dans Cendrillon, il y a déjà des thématiques qu'on retrouve dans d'autres civilisations que la Chine. Ce sont des histoires. Le petit chaperon rouge, il y a une thématique qu'on retrouve au Maghreb, il y a une thématique qu'on retrouve un peu partout. Hein. C'est, comme tu dis, ça voyage beaucoup, et ça se transforme. Mais il y a toujours quelques grandes tendances sur le conte initiatique, sur le conte. Sur le récit, ce qui s'est passé pendant un long moment, au moins en France, voire en Europe, et c'est que le conte était le lieu, enfin, le conteur était celui qui apportait l'information dans le village. C'est celui qui savait ce qui se passait un peu plus loin et qui, c'est l'image classique, hein, les soirées où on s'occupait des noix, des châtaignes, il y avait toujours quelqu'un qui comptait. Et en fait, c'était un petit peu l'organe d'information. Mais voilà, il y a eu ça. Dans d'autres régions du monde, c'était le conte qui allait apprendre aux jeunes, aux enfants, ou qui apprenait au groupe ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, ce qu'on pouvait faire, ce qui était permis, ce qui ne l'était pas. Voilà. Voilà un peu l'histoire du conte. Et le conte est arrivé donc sur la scène, comme spectacle vivant, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, en France.
Vous êtes combien à porter ce festival pour qu'il ait lieu chaque année ?
Oh, dans l'année, on est, 7 ou 8, y compris notre directeur artistique. Et sur la durée du festival même, on est 25 à 30 personnes. En bénévole, alors pas forcément tous les jours, mais en gros 25 personnes qui apportent leur petite main à tout ce qu'il faut faire pour que les soirées aient lieu. Oui, y compris la vaisselle, le thé à la menthe, la préparation des tables, bien entendu toute la partie technique, et même si nous avons toujours un professionnel en plus pour la partie éclairage et son. Mais voilà, c'est une équipe... Qui a des difficultés à se renouveler, mais ça vient. Alors d'abord, on a les jeunes, c'est-à-dire nos enfants et petits-enfants, surtout nos petits-enfants, qui se sont intégrés, pour certains, dans l'équipe, et qui ont grandi. Et puis, cette année-là, on a une proposition de trois nouvelles bénévoles, plus jeunes que nous, on va dire. Voilà. Mais nous, de toute façon, on est toujours jeunes.
Absolument.
D'abord parce qu'on compte. Voilà.
Donc je rappelle, hein, du 28 juillet au 12 août, des journées remplies de contes, d'ateliers aussi, donc des lieux de rencontre aussi, et une librairie, c'est ça ?
Ah oui, bien sûr, une librairie. Ah oui, bien sûr. Une librairie qui a toujours été avec les nouvelles du conte et qui est ouverte. Ça, il faut voir sur le site, voir sur nos petits. Voilà. Hein.
Mais les jours de spectacle, elle est toujours ouverte.
Oui, les jours de spectacle au Mania, hein, dans la ferme.
C'est une librairie qui a toujours été auprès du festival.
Toujours.
Plusieurs librairies nous ont prêté leur concours et on les remercie d'ailleurs, voilà, parce que c'est très intéressant.
Oui.
Ça prolonge le spectacle et je pense que le débat entre oralité et écriture du conte, c'est... Voilà. Chacun apporte sa contribution d'une façon ou autre.
Et en fait, la médiathèque de Cré nous prête quelques livres et surtout des albums pour enfants qui sont dans notre librairie. Et par ailleurs, il y a aussi une table de CD des éditions Oui Dire de Pascal Dubois, et qui est à la disposition des gens pour écouter et éventuellement acheter, puisque c'est une vente. Mais ça a toujours été le cas. Au début où j'ai été mon Nouvelle du Comte, il n'y avait pas encore de lieu dans la ferme pour la librairie. C'était le bibliobus de la médiathèque de Cray qui était amené sur place. Et qui, les années précédentes, était dans la partie nomade. Voilà. C'était plus petit, mais maintenant on a notre lieu, quoi, depuis pas mal d'années.
Voilà, et puis je vois aussi, vous travaillez avec covoiturage.
Bah, c'est-à-dire que cette année, oui, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on aurait dû le faire, puisque maintenant il y a covoiturage. Oui, on signale bien qu'il peut y avoir covoiturage. Et on, disons qu'on on essaye, enfin on sollicite nos spectateurs à ne pas venir tout seuls dans leur voiture. Voilà. D'une part, ça nous aide pour le parking, et surtout, c'est très important par rapport à cette idée. D'autant qu'on a toujours, depuis fort longtemps, essayé que notre festival soit dans la perspective du durable, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'on a de la vaisselle, on n'a pas de vaisselle qui se jette, on utilise si possible de la nourriture bio. Cette année, d'ailleurs, nous aurons un
restaurateur,
voilà,
bio, restaurateur, qui est paysan et qui cultive ses propres légumes et en même temps qui prépare la cuisine. Et voilà. C'est délicieux.
Serge Alain, qui est de Cobonne et de Cray, voilà, qui va nous faire les repas de tous les jours où nous sommes à la ferme des Manières.
Que nous avons testé.
Et nous avons, oui.
Ça, c'est un des privilèges du CA.
Eh bien, pour que les auditeurs puissent s'informer aussi de ce festival, donc il existe une page internet.
Oh, tout à fait. Nouvelleducomte.org. Voilà. Vous avez toutes les informations.
Voilà, et vous trouverez aussi donc la programmation, l'agenda, et puis
de quoi s'inscrire au stage. C'est Anne-Marie qui est responsable.
Oui.
Et l'éco-voiturage a un lien sur le site aussi pour justement se signaler. Comment ça se passe pour se signaler à
Il me semble bien. Il me semble bien. Très honnêtement, là, je ne l'ai plus dans. Donc, et puis alors, toutes les choses pratiques sur les tarifs, tout ça, c'est sur le site, c'est sur nos petits papiers.
Un conte vient, il veut parler. Il est plus vrai que ta main droite. Ne le laisse pas s'envoler. Offre-lui du lait et des dattes. Gougo nous recommande, surtout dans son livre, Le Livre des Amours, dont j'ai parlé tout à l'heure, de ne pas laisser partir le conte. Et je vous cite ce qu'il écrit.
Pour moi, dit Henri Gougo, le conte n'est pas un art du spectacle, c'est un art de la relation. J'insiste beaucoup là-dessus. Quelle est la performance que doit viser le conteur? C'est au moins le temps d'une soirée de faire en sorte d'abolir la solitude. Il raconte une histoire qui l'a ému ou qui l'a fait rire et il provoque dans son auditoire l'émotion qu'il a lui-même ressentie.
Anne-Marie et Joël, merci d'être venus donc à Erdiwa pour nous présenter ces nouvelles du conte de Bourdeau pour 2017. Bonne soirée.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 Terre View.
Okay, the bird.